Quand on s'interroge sur les rapports entre philosophie et histoire, on pense spontanément à deux grands pôles symétriques, selon qu'on est historien ou selon qu'on est philosophe. Si on est historien, on pense inévitablement au recours que font les historiens du langage philosophique pour penser leur propre pratique. Les exemples sont très nombreux. La philosophie du langage a été utilisée par les historiens pour essayer de réfléchir à la pratique du récit historique, à la question de savoir comment il se distingue du récit fictif. On pourrait trouver d'autres occurrences. Si on est philosophe, on pense à autre chose, tout aussi inévitablement. On pense à ce qu'on appelle, pas très clairement en général, on pense à ce qu'on appelle philosophie de l'histoire. Mettant des guillemets. Ce qu'on appelle philosophie de l'histoire, en règle générale, recouvre des grandes constructions qui sont apparues à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et qui, en gros, se donnaient pour objet de réécrire l'histoire universelle sous la forme d'un grand processus irréversible, homogène, et surtout, un processus dont la fin commandait le développement en excluant toute intervention transcendante. Le livre que je suis en train de vous présenter s'appelle Nommer l'histoire avec un sous-titre qui est Parcours philosophique. Et il a pour objet de prendre le problème du rapport entre histoire et philosophie, par un tout autre bout. Je dirais d'y injecter de la pluralité, une pluralité indéfini. Ça part d'un constat extrêmement basique, extrêmement simple, qui est que les philosophes racontent beaucoup d'histoires. Les philosophes racontent des histoires, vous pouvez d'ailleurs prendre la formule dans tous les sens français de l'expression, y compris les plus inquiétants. Les philosophes racontent des histoires et ce sont ces histoires philosophiques qui m'intéressent. Si j'essaye d'expliquer pourquoi, je pense que le mieux est de distinguer trois grands niveaux de préoccupation. Le premier, l'ouvrage s'appelle Nommer l'histoire, le premier niveau concerne celui des noms que les philosophes donnent à l'histoire. Il va de soi, si seulement on veut bien y prêter attention, il va de soi que les noms qu'on donne à l'histoire ne sont pas indifférents. Il va de soi que selon qu'on appelle l'histoire événements, perfectibilité, civilisation, généalogie, la liste peut se prolonger indéfiniment. Il va de soi que cela engage toute une série de conséquences très importantes sur ce qu'on va dire de l'histoire. Nommer l'histoire, au fond, c'est toujours lui assigner un temps. Au moins, en gros, c'est la déterminer négativement. Si vous parlez de perfectibilité, vous ne parlez pas de providence. Si vous parlez d'événements, vous ne parlez pas de processus, etc. Cette première couche d'analyse correspond à celle du philologue, l'homme des noms. Le second niveau est celui des historicités, parce qu'on ne peut pas s'arrêter au problème des noms. Il est patent que ces noms font l'objet d'usages très divers, d'appropriations très conflictuelles. Ils sont équivoques. La perfectibilité de Rousseau n'est pas celle de Condorcet. La civilisation dont parle Fergusson n'est pas la civilisation que théorise Guizot. La généalogie que conceptualise Nietzsche n'est pas celle que va élaborer Foucault, quand bien même il se réclame de Nietzsche. Là encore, je pourrais poursuivre. Ce qui m'importe, c'est de dire ici que l'attention se porte sur ces récits dans leurs plus petits détails, dans leur empiricité. Je pourrais dire, si les métaphores n'étaient pas un peu prétentieuses parfois, qu'il s'agit de reconstituer la nervure de ces récits, avec un scalpel très patient. Certainement aussi, et inévitablement, laborieux. Cette seconde couche d'analyse est celle qu'on pourrait appeler, le mot n'est pas très joli, celle du narratologue, le spécialiste des narrations. Et puis il y a la troisième et la dernière couche. La troisième et la dernière couche, je dirais que c'est celle qui renvoie au problème de l'historicisation. L'historicisation de quoi ? L'historicisation de l'histoire elle-même. Parce que l'objet de l'enquête, ce sont donc tous ces récits, tout à fait hétérogènes, par lesquels les philosophes se sont efforcés de raconter, de dire le temps des hommes. Je les étudie au coup par coup, empiriquement, sans aucune espèce d'horizon systématique. C'est pourquoi le sous-titre de l'ouvrage parle de parcours au pluriel. Et il parle de parcours philosophique, parce que ces récits, je vais les chercher chez des philosophes, c'est-à-dire chez des auteurs qui sont communément reconnus par l'institution comme tels. Pour paraphraser une formule de Nietzsche qui est très belle, je pense que d'une certaine façon, j'ai essayé de retourner le dard de l'histoire contre elle-même. Ce troisième et dernier niveau d'analyse est celui du philosophe à proprement parler, qui vient redoubler le philologue et le narratologue. Voilà. Un mot quand même pour finir, pour essayer peut-être de démarquer encore cette tentative. Ça n'est pas tout à fait un hasard si l'ouvrage paraît dans la collection « En temps et lieu » où est déjà parue la traduction française du désormais célèbre ouvrage de Reinhard Koselleck. Par rapport à l'entreprise de Koselleck, la mienne se démarque essentiellement par le fait que c'est l'entreprise d'un historien de la philosophie au sens français du terme. C'est-à-dire que je m'attache à des œuvres philosophiques. Certaines sont extrêmement connues, Rousseau en est un bon exemple, d'autres, en France en tout cas, beaucoup moins, je pense à Owen. Mon problème, c'est bien de me demander quelles histoires racontent ces philosophes dans leurs œuvres effectivement, et comment ces histoires témoignent d'une cohérence interne qui leur confère une densité à chaque fois singulière. Ce à quoi Koselleck ne s'attachait pas, ça ne l'intéressait pas. De ce point de vue, je pense que l'enquête prend une tournure spécifique qui n'a absolument pas d'autre but que de faire penser le lecteur. De mon point de vue, il n'y a d'un philosophe, d'ailleurs, absolument rien d'autre à attendre.